telle tranche d'âge, évidemment, le pas le même, le développement de l'histoire n'est pas le même, les thèmes abordés ne sont pas les mêmes, etc. Et pour moi, le point de départ est le même. Et donc, l'enthousiasme à essayer d'explorer une idée, un point de départ un peu fantastique ou un peu scientifique, une idée de science-fiction, est la même.
Est-ce que vous savez qu'une lettre seulement sépare un de vos textes de celui de votre voisin,
M. Hellet? Je sais tout à fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle Dans la peau d'un autre. Il a écrit dans la peau d'une autre et je compte bien lui mettre un procès à faire.
L'éditeur, attention.
On va en discuter.
L'éditeur a pris la responsabilité.
Absolument.
On est dans une espèce de ring de boxe ici.
Je propose
un
duel, ça serait bien.
Ça fait longtemps qu'il y avait le duel en France.
Allez, ça serait chouette.
Moi, je vote pour le duel.
Mais c'est une transition, j'imagine.
C'est aussi une transition, de fait. Pour passer à M. Joanne Elliott, donc.
Demain, 5h dans le procès.
Ouais.
Oh, ça peut
demain, 5h.
C'est trop tôt?
Trop tôt pour moi.
23h.
Vous choisissez voter, moi. Vous choisissez voter.
Donc, Monsieur Elliott, vos premiers textes publiés ont été une trilogie steampunk, écrite entre 2000 et 2007, c'est les trois tomes. Vous avez écrit peut-être environ une quinzaine de textes pour les adultes, on va dire.
Plus de 20.
D'accord. Vous écrivez aussi, bien sûr, pour la jeunesse, donc de Opération Mémo en 2004 à Forban, le tome 2 des aventures d'Alexia Dumas, paru en 2013 chez La Talente Jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre dernier texte ou de Dans la peau d'une autre comme...
Ah ben, comme vous voulez, ce sont radicalement différents, effectivement. Alors, ben, le tout dernier ben, qui est sorti, qui est arrivé ici, là, pour cette édition des Imaginales, alors c'est pas celui-là, mais c'est la suite de celui-ci, qui est sorti l'année dernière pour les Imaginales. Alors là, c'est purement de l'aventure historique, dans le cadre de la grande piraterie, puisque pour un projet jeunesse en 4 volumes qui s'appelait, alors c'est vraiment un deuxième point commun qu'on a, j'ai fait une série en 4 volumes qui s'appelait Le Tempestaire, et qui est... Alors, la pure fantaisie, mais qui était l'histoire d'un jeune garçon qui maîtrisait les vents, etc. Donc, on a quelque chose quand même.
Tu l'as publié quelle année?
C'est... Ou alors, le premier volume a...
À 3 ans.
Mais...
Merde.
Dans chaque fois,
un partout.
On va éviter le duel, je crois. Et c'est tout ça pour dire quoi. Quand je m'étais lancé dans ce... En 4 volumes, j'avais fait pas mal de recherches, parce qu'il y avait quand même un fond historique. C'était un pseudo de 17e, 18e siècle, et au moins tout un volume se passait en mer, donc je m'étais lancé dans pas mal de recherches, enfin, j'avais relu pas mal de récits de pirates en fait, mais d'authentiques témoignages de marins ou de navigateurs de différentes époques, et puis ça m'a passionné. Ça a peut-être réveillé chez moi un petit peu le souvenir j'adore le cinéma, et puis j'ai sans doute été marqué par... à l'époque de la dernière séance, par Errol Flynn, en Fontainebleau, etc. Enfin voilà, j'adorais ce genre de film, et j'ai retrouvé ce plaisir-là. Et donc du coup, je me suis dit, ce serait dommage, une fois que le premier projet était terminé, d'en rester là. Et puis voilà, en toute l'occasion s'est présentée, j'ai voulu continuer à visiter un petit peu ces marins, ces navigateurs, ces pirates, corsaires, flibustiers et autres. Et donc je me suis lancé dans une série... Pour jeunes, je vais au sens large, parce que peut-être pour anticiper la question, quand j'écris ce genre d'histoire, alors c'est très égoïste, j'essaie de me faire plaisir à moi-même déjà, sans penser forcément à qui la lira, parce que s'il y en a qui la lisent et qui prennent plaisir, tant mieux, c'est quand même le but, mais voilà, mais très honnêtement, j'ai déjà mis dans cette histoire ce qui allait vraiment me faire plaisir, voilà. Et donc voilà, pour celle-ci, donc, mais c'est uniquement dans un cadre historique. Voilà. En fait, c'est ça que je voulais dire. Je partais dans le digression un petit peu. Je voulais juste dire ça. C'était que pour une fois, sur d'habitude, j'écris de la science-fiction ou de la fantasy. Là, non, il n'y a aucune trace de magie. Il n'y a pas de machine improbable. On est dans un cadre purement historique avec d'ailleurs des personnages historiques. On croise Jacques Lafitte, le seul corsaire d'origine française. Enfin, bon, il y a encore un doute sur son origine, mais enfin, voilà. Pour cette série. Et puis, le texte donc, qui, dans la peau d'une autre, c'est un thriller, donc avec tous les codes du thriller, du suspense, etc. Et avec une petite pointe d'anticipation de science-fiction quand même, là, mais je ne veux pas faire, je veux pas spoiler, comme on dit, parce que c'est quand même la chute. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est une star de la chanson ado. Elle s'aperçoit un jour qu'en fait, elle a été complètement fabriquée, y compris au sens propre de l'expression, et ben, elle s'échappe, et puis elle s'échappe de la clinique de repos dans laquelle on a voulu l'enfermer, et elle essaie de savoir qui elle est ou ce qu'elle est réellement. Voilà.
Et vous êtes un ancien prof d'histoire,
oui.
Et vous aimez l'histoire et vous aimez la détourner. Est-ce que aussi c'est parce que, enfin, vous êtes plus maintenant, vous vous consacrez vraiment complètement à l'écriture, mais du coup vous continuez quand même un peu à enseigner l'histoire aux jeunes à votre façon?
Ah, peut-être. Alors, j'essaie quand même d'éviter, je dirais, toute forme de didactisme. Bon, je pense qu'il n'y aurait rien de plus ennuyeux qu'une leçon d'histoire, même sous prétexte d'un livre, mais effectivement. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est m'emparer de personnages historiques et les placer dans des contextes complètement différents, par exemple, ou travailler sur des... Voilà. J'écris pas mal d'Uchronies, c'est-à-dire, bon, maintenant le terme est un peu connu, mais comme expliqué, c'est une forme d'histoire détournée, c'est, on imagine qu'un événement historique tel qu'on le connaît, nous, dans notre réalité, a eu lieu de manière différente. Je donne un exemple, dans un bouquin, j'ai sauvé la Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants de la décapitation. Je ne suis pas du tout royaliste, mais bon, quand même, pas leur imposer ça. Et ils s'échappent en ballon, voilà, par exemple.
Et après.
Et après, le fil en aiguille, ils traversent l'Atlantique. Et puis, ben, comme ils voyagent avec un ingénieur, j'oublie le nom, avec un personnage historique qui a réellement existé, qui est un petit peu le rival des frères Montgolfier. Son nom me reviendra, et qui en fait est celui qui a vraiment mis au point la montgolfière, peut-être pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, il y a un nom très simple, c'est lui qui a mis au point le principe la nacelle en osier, par exemple, c'est lui qui fait des choses comme ça. Et alors, il s'échappe avec cet ingénieur, et le futur de lui, ils se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique, et puis il faut bien refaire leur vie, ils sont plus rois, il n'y a plus de revenus, etc. Mais ils vont fonder la première compagnie de transport aérien. Voilà. C'est le principe des plus légers que l'air.
Merci. Je vais passer à des questions plus générales. Est-ce que vous avez des jeunes lecteurs dont vous suivez les avis, les conseils, comment ça marche?
Alors non, pas du tout. Ma première lectrice, parce que je pense qu'on a souvent tous un premier lecteur, première lectrice, pour moi c'est mon épouse, donc qui n'est plus comme moi très jeune, même si je pense qu'elle est restée d'esprit aussi. Mais non, mais je n'ai aucun jeune autour de moi que je donnerais, pas par volonté, ça se trouve comme ça, mais... Pourquoi pas, le cas échéant, me livrer à l'exercice. Mais comme je disais tout à l'heure, j'essaie très honnêtement de ne pas me poser la question de savoir pour qui j'écris. Ça peut paraître bizarre. Après, il y a, je pense que comme la plupart de mes collègues, au bout d'un moment, limite, cette question se pose avec l'éditeur ou le directeur de collection, quand il s'agit parfois de recadrer certaines choses, et encore éventuellement, mais au moment où j'écris, ce qui prime, c'est vraiment l'histoire, en fait, les personnages, ce qu'ils vont vivre.
C'était aussi une question sur le retour, peut-être, si vous avez un blog ou si vous êtes sur Facebook, parce que des fois, c'est vrai qu'il y a une
interaction, on va dire. En tant que bon auteur de... En tant qu'auteur de science-fiction, je suis technophobe, je suis un dinosaure technologique, je sais même pas utiliser les réseaux sociaux, ces choses-là. L'ordinateur, c'est juste un traitement de texte, le reste, je ne maîtrise pas. Donc.
Je ne sais pas si les autres veulent...
La question du lectorat.
Oui, du lectorat, des retours et...
La réponse première, non, j'ai pas de retour, j'ai pas de blog, j'ai pas de communauté à qui je pourrais présenter un projet et que je pourrais faire réagir. Le lecteur avec qui j'interagis, avec lequel j'interagis, il est là-dedans, quoi. C'est le petit morceau de l'imagination, là, dans un coin de la tête, qui est tout petit au début quand on se met à écrire, parce qu'on n'a aucune conscience de l'effet qu'on produit sur une autre personne. Tout au moins, on se trompe complètement, hein, quand on se met à écrire. Et tout le travail au début du métier d'écrivain, c'est essayer de devenir schizophrène, de faire grandir ce petit embryon là qui est dans la tête et lui donner un vrai corps de la chair pour qu'on soit confronté véritablement à quelqu'un d'autre, pour qui a un regard extérieur, qu'on a développé une espèce de regard intérieur, et, enfin intérieur parce qu'il est dans notre crâne, et extérieur pour qu'il soit capable de juger notre travail. Enfin, dit autrement, c'est simplement essayer de déterminer quelles sont les règles un petit peu à ne pas se vautrer dans le narcissisme de son texte et garder un certain détachement. C'est ça.
Tu veux rajouter quelque chose ?
On essaie de saboter notre interview.
Entre les duels et les sabotages. Moi, j'ai l'impression que, en fait, moi, quand j'écris, j'ai l'impression que ça part de trucs assez mystérieux, en fait. Je conscientise pas tellement. Je pense qu'en plus, ça dépend des livres. J'ai l'impression que le premier roman, moi, c'était le premier roman, c'est parti de zones hyper mystérieuses de moi, et c'était un souffle. J'ai vraiment aucun problème à écrire, et c'est sorti comme ça. Et j'ai l'impression que le deuxième, c'est plus dur, en fait, justement, parce que c'est comme si, d'un coup, on essaye de garder ce mystère et la spontanéité totale de l'écriture du premier, et il y a quelque chose de l'ordre d'une technique aussi qui s'installe, qu'on n'a pas envie, et en même temps, il y a une technique aussi. Enfin, moi, je suis en plein dans le deuxième, et je trouve ça pas facile de passer du premier au deuxième, en fait, livre. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui est mystérieux, j'ai l'impression que plus c'est mystérieux, plus c'est sincère quand j'écris, plus finalement ça va rejoindre plein de gens. Voilà, parce que ça va toucher aussi peut-être des zones mystérieuses chez eux. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour du mystère. Donc après, c'est vrai que je ne me suis pas dit pour qui j'écris. J'ai écrit comme j'avais envie d'écrire, ça c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, c'est sûrement des parties ados et enfants de nous qui ressortent. On ne sait pas lesquelles, et c'est ça qui est bien. Et je pense que c'est là aussi où pour nous, ça fait du bien. C'est des écritures qui libèrent beaucoup de choses en nous. Et après, c'est vrai que ça, c'est vraiment la démarche de l'écriture. Et après, quand ces livres-là rejoignent les imaginaires et les autres, et nos lecteurs et les ados, ben, là, ça fait du bonheur aussi, quoi. Voilà. Donc il y a deux parties, quoi. Il y a la partie, ce que l'écriture libère, on ne s'en rend pas forcément compte sur le moment même, ou on s'en rend un peu compte, et ça libère vraiment beaucoup de choses, ça c'est sûr. Et après, il y a le bonheur de quand on rencontre des lecteurs derrière et qu'on voit que ça leur fait du bonheur aussi, quoi. Voilà. Enfin,
voilà, moi, c'est quelque chose comme ça. Mais le deuxième est différent, donc je dirais peut-être d'autres choses après avoir écrit le deuxième. Oui, moi, je suis aussi assez... C'est vrai qu'il y a vraiment une grande part de mystère, mais pour moi, la clé, c'est le mûrissement du projet. C'est-à-dire qu'il commence à s'écrire quand je ne peux plus faire autrement. Pourtant, je me souviens des moments de panique en lisant les lettres à un jeune poète de Rilke quand j'avais 15 ans. Il me disait, si vous pouvez continuer à vivre sans écrire, c'est que vous n'êtes pas fait pour être auteur. Quand même, bon, peut-être. J'avais des... Et là, par rapport à la nécessité du projet, c'est vraiment ça qui me guide. Là, je suis sur un projet sur lequel je travaille depuis des années, c'est très très long, ça ne veut pas du tout dire que ça va être un chef-d'œuvre, ça ne veut pas du tout. Mais en tout cas, bon, il est vrai aussi que je publie assez peu, que j'ai la chance que mes livres aient une queue de comète, disons, suffisamment longue en termes de traduction, je peux me permettre pour l'instant, de manière éphémère et fragilissime, etc., de fonctionner comme ça, c'est-à-dire prendre 3 ans, 4 ans pour écrire Van Gogh, prendre là à nouveau quelques années. Bon, et ça, c'est la clé. Du point de vue des échanges avec les lecteurs, j'en ai uniquement dans ce genre de circonstances. Quand je vais sur un salon, j'ai pas du tout de ni blog, ni. Il y a des forums, il y a des sites où il peut arriver qu'on parle de mes livres, mais je suis extrêmement. Alors, moi, c'est pas. Je suis extrêmement intimidé de lire des choses sur ce que j'écris. Vraiment, je suis très, très, très mal à l'aise. Donc, je lis très, très peu ou jamais, voilà. Et je fais lire autour de moi. C'est globalement... Ils sont contents. Ils sont contents.
Bon, c'est brillant, globalement positif.
Voilà, ils sont globalement positif. Voilà.
J'ai lu, par contre, dans une interview au magazine Télérama en 2012, que vous disiez « La langue est devenue mon arme ». Comment est-ce que vous entendez cette phrase dans le cadre d'un travail avec la jeunesse ?
Alors, ça, c'est parce qu'il y a le moment clé, qui est le moment où, tout d'un coup, j'ai beau avoir écrit, comme je vous l'ai dit, un cahier entier sur mon prochain projet, tant que je n'en ai pas écrit une ligne une ligne dans la patte de la langue de ce livre-là, le livre n'existe pas. Et c'est là que tout se... c'est là que je le vois naître. Donc à un moment, je me dis, bon, maintenant, faut y aller. Et j'écris alors que tout n'est pas forcément fini. J'écris une ou deux pages. Et ça va être ma glaise, c'est avec ça que le livre va se faire. Et ça, c'est très vrai pour aussi les traductions. Je suis toujours très, très, très anxieux des traductions qui sont faites de mes livres, parce que c'est tellement mon territoire que j'ai l'impression d'un animal emmené dans un zoo très loin quand il me paraît dans une autre culture. Alors ensuite, là aussi, j'essaie de voir si globalement ça se passe bien. Et si oui, je me dis que le traducteur doit être d'une fidélité extraordinaire. Et si ça se passe mal, je me dis salaud de traducteur, massacrer mon truc. Et voilà, ça c'est bien pratique. Et on ne peut pas le faire en France, malheureusement. On peut dire si, on peut toujours dire l'éditeur l'a très mal présenté au public, à mon public.
J'avais une question. J'avais une question pour François Place. Parce que donc vous illustrez les textes de Timothée Trombel et d'autres auteurs. Est-ce que vous concevez différemment votre travail quand c'est vous qui illustrez pour vos textes ou quand vous illustrez pour quelqu'un d'autre? Comment ça se passe en fait?
Il y a deux différences. Même pour moi, si j'ai écrit mon texte avant de l'illustrer, je suis dans la même situation que si j'illustre un autre auteur. J'ai les mêmes problèmes, les mêmes angoisses, etc. Si j'ai conçu mon livre illustration et texte en même temps, bien souvent c'est le dessin qui va emmener vers l'écriture. Donc voilà, la différence c'est que si j'illustre mes textes, c'est le dessin qui est moteur, qui m'emmène dans la narration. Et donc parfois il m'arrive d'illustrer mes propres textes avec des difficultés comme celles que je pourrais rencontrer pour illustrer d'autres auteurs. C'est des difficultés simplement parce qu'on a des images dans la tête quand on lit un texte et parfois le dessin ne vient pas aussi facilement. Donc c'est plus facile de corriger un texte entre guillemets que de corriger un dessin, je trouve. Voilà, mais bon, après c'est ma façon de voir les choses. Mais j'ai beaucoup de plaisir à illustrer, j'ai beaucoup de chance aussi et de plaisir à illustrer Timothée dans les deux cas parce que Toby Lolnes, je pense que ça serait un bonheur pour tout illustrateur, je crois. Je pense que vraiment tout illustrateur aurait rêvé d'illustrer ça. Quand j'ai lu le texte, voilà, c'est tout simplement génial à imaginer.
Alors que de mon côté, on m'avait dit François Place est en train de lire, et je pensais vraiment, je me disais vraiment aucune chance, vraiment, ne rêve pas, tu vas te retrouver avec Bip. Et juste un détail sur cette couverture là, là il y a vraiment une part de liberté totale de François qui a créé la bibliothèque imaginaire de l'héroïne Victoria qui se déploie comme ça dans le...
Tu peux lâcher le micro, je crois qu'il sert à rien.
C'est vrai,
Tu veux celui-là,
Non, vous allez voir, je suis un homme de théâtre, on l'a dit. Et là, vous avez Vers le Sud, Le Dormeur du Petit Marché, les Chèvres d'Esculape, Le Tigre de l'Orient Express, qui sont des livres qui sont maintenant réclamés dans toutes les librairies, et qui n'existent pas. Ça, c'est une carte blanche à François.
Celui-là est mieux.
Ouais, celui-là marche.
Juste pour revenir sur pourquoi on écrit une jeunesse, il y a effectivement le côté l'ado qu'on a en nous, l'enfant qu'on porte en nous, etc. C'est clair. Et il y a aussi que moi, en fait, ce qui m'a donné envie d'écrire jeunesse, c'est le fait de lire des livres de jeunesse que j'ai adorés, comme ceux de Timothée. Et en fait, c'est vrai que ça a été aussi un point de départ de l'écriture jeunesse, c'est possible. Il y a une super littérature avec des vrais auteurs qui ont un regard sur le monde, qui ont un style, ou bien des aventures comme on ne trouve pas forcément justement en littérature adulte. Enfin voilà, pas forcément envie d'écrire du super gore, super sanglant, super sexe, ou pas forcément envie d'écrire du super autobiographique sur l'inceste que je n'ai jamais digéré, etc. Donc au final, je pense qu'il y a dans la littérature jeunesse vraiment une incroyable littérature, une vraie littérature. Et c'est ça qui m'a donné envie aussi d'écrire.
Et alors justement, vous êtes plusieurs à maltraiter quand même vos jeunes héros, parce que Nina se retrouve de fait orpheline, puisque bon, ses parents disparaissent, voilà. Et elle se retrouve dans un orphelinat qui est très très dur. Et en même temps, heureusement, vous arrivez à nous embarquer, parce qu'elle part dans une quête avec des objets magiques et tout, qui a un petit peu de part de souffrance, mais je sais pas, peut-être que vous pouvez nous en parler un peu de traitement que vous infligez à vos jeunes héros.
Non, mais c'est dans l'aventure, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Après, c'est effectivement. Enfin, je ne sais pas, pour Nina, par exemple, c'est la peur. Comment on peut la dépasser? Comment on peut faire avec? Comment on peut agir quand même si on a peur? Enfin, pour moi, il y a un peu ça dans les personnages, enfin, dans Nina et dans les personnages, de dire on se retrouve confronté à des choses, on a super peur, on n'a pas forcément envie de les vivre, mais finalement, on peut y aller quand même. C'est de dire le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de faire quand même, enfin, quelque chose comme ça. Ce qu'on a tous en nous et ce que les lecteurs aussi ont en eux. Enfin, voilà. Après, oui, il y a des épreuves, il y a des aventures qui sont liées pour Nina aussi à l'époque, parce que malheureusement, dans une dictature, ben, voilà, il y a des choses terribles, la peur s'insinue dans tous les foyers, dans toutes les familles, et chacun est confronté à ça, donc chacun fait comme il peut avec. C'est aussi sur comment on construit sa conscience du monde qui nous entoure, de comment on veut participer, et c'est aussi autour de ces âges d'ado qu'on vit toutes ces questions. Voilà. Et puis après, il y a aussi le côté aventure, addictif, envie de savoir la suite, et ça fait partie aussi de la littérature. Ça répond ?
Tout à fait. Je vais passer le micro à...
Xavier Muller, il y a un peu la même thématique aussi dans votre roman.
L'oracle du vent. L'oracle du vent.
Oui, tout à fait. Voilà. C'est une trilogie, du coup, j'ai plus de...
La même thématique de l'enfant qui...
L'héroïne orpheline.
Oui, l'héroïne orpheline. Alors, pour être tout à fait franc, c'est aussi un truc scénaristique, un peu. C'est un truc narratif qui permet d'autonomiser le personnage principal. La difficulté, une des difficultés de raconter une histoire d'une adolescente, là, Joanne, elle a 12 ans, c'est de la lancer dans les aventures. Si elle a une vie un peu ordinaire chez ses parents, ça va être plus difficile parce que les parents vont poser un souci, ça va être une force réactionnaire dans l'histoire. Ils ne vont pas l'autoriser à quitter. À un moment, il va falloir évidemment qu'elle quitte. Qui quitte son domicile pour partir dans ses aventures. Hein, si on pose un schématique. Donc en gros, l'idée, c'est pour ça que c'est pratique un enfant. C'est un adulte en puissance, finalement. Il possède l'autonomie, l'indépendance physique, géographique d'un adulte qui peut aller où il veut quasiment. Et puis quelque part aussi, c'est forger un tempérament un peu plus d'acier qu'un enfant élevé dans une famille traditionnelle. Enfin, c'est un cliché, mais voilà, c'est comme ça qu'on considère. Et bon, moi, j'avais envie de raconter aussi la vie d'une orpheline parce que en fait, ses parents ont joué un rôle dans son pouvoir de voir le vent, qui paraît un pouvoir fantastique au début, en fait, trouve une explication scientifique, une explication rationnelle. Au troisième tome, et les parents ont joué un rôle là-dedans, c'est même eux qui sont à l'origine de voir comment, pourquoi, sans lire le livre.
Joanne, peut-être vous voulez commenter sur la...
Oui, je disais, c'est vrai que c'est le premier défi un peu technique, souvent en littérature jeunesse, c'est comment se débarrasser des parents, qui sont fidèles, c'est une entrave quand on a le héros. Partir vivre ses aventures, et bon, voilà, enfin, je peux répéter ce que vient de dire mon collègue. S'il avait ses parents sur le dos, l'aventure, elle se terminerait au coin de la rue, quoi. Donc, bon, il faut le laisser partir, donc, ça que souvent. Et puis, la question de la. Très souvent, regardez les schémas de fonctionnement des grandes aventures, que ce soit pour la jeunesse ou autre, c'est souvent lié à la question de la filiation et des révélations qui y sont liées. Enfin, je veux dire, de Star Wars à je suis ton père, Luc, bah oui, c'est ça qui a fait le truc de Star Wars aussi, quoi. Ben, donc voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est pareil, la plupart de mes jeunes héros, apparemment la peau d'une autre, mais c'est bien simple, hein, elle était même complètement fabriquée, donc elle n'a même pas de parents, ça prend encore plus simple. Dans mes aventures maritimes, etc., il y a alors, ben, le premier chapitre de Flibustière, la maman meurt, comme ça se fait tout de suite, suite à une attaque de pirates. Il reste que le papa qui est un petit peu, dis-moi qu'à un moment je le mets en prison, voilà, comme ça. Ouais, on retrouve des trucs, chaque fois pour s'en débarrasser, et c'est. Toute la difficulté de rendre suffisamment autonome et donc, puissant, fort, enfin, débrouillard, notre jeune héros, effectivement. Et puis, pour revenir à la question de départ aussi sur on les maltraite, et je dirais presque qu'on prend plaisir malsain à maltraiter nos héros, petit côté sadique des créateurs d'histoire pour la jeunesse, mais sans ça. Sans ça, quel intérêt, entre guillemets, s'ils ne sont pas confrontés au pire, entre guillemets, des degrés dans le pire, mais il faut aussi que le lecteur puisse dire, mon Dieu, est-ce qu'il va s'en sortir, sinon il ne se passe rien. Tout simplement, pas.
Il répète vraiment tout ce que je dis,
Vous avez vu, titre, voilà.
Je t'ai envoyé mon avocat.
François, est-ce que vous voulez
commenter? Oui, c'est tout à fait vrai que c'est un. Je ne veux pas dire que c'est un artifice, mais effectivement, on se débarrasse des parents. Mais en même temps, je crois que ça répond aussi. En tout cas, s'il y a un truc qui répond chez le lecteur à une envie, un jeune lecteur, se débarrasser de ses parents, c'est bien ça, je crois. Alors là, je pense qu'on est tous passés par là. J'en voudrais d'autres, ou pas cela. Enfin, tout le monde a vécu ça, je crois, à un moment ou à un autre. Donc c'est un fantasme de gamin. Et c'est vrai qu'il faut les. Il faut les plonger dans la marmite, il faut les faire un petit peu rissoler, parce qu'autrement, nos héros, il faut quand même qu'ils se bousculent. Ils se forgent le tempérament à travers les épreuves. Voilà, c'est un grand classique, tout ce qu'on appelle l'initiation, mais tous les romans jeunesse gravitent autour un petit peu quand même de l'initiation, c'est-à-dire comment on passe de l'état enfantin à l'état adulte, forcément par des épreuves qu'on surmonte, par des confrontations avec les autres. La révélation du courage, la révélation de l'amour, etc. Bon, souhaitons que ça nous arrive à tous et que ce soit déjà fait, voilà.
Et alors, une dernière question sur vos projets à venir de textes.
Alors moi j'ai un livre pour adultes qui sort normalement à l'automne, qui parlera de paléontologie, qui raconte l'histoire d'une paléontologue qui exhume, qui est en Nouvelle-Guinée, qui fait des fouilles, et qui exhume un fossile impossible, qui est un fossile de dinosaure à plumes qui n'aurait que 20 millions d'années. Et comme tout le monde le sait, les dinosaures, a priori, ont disparu à cause de la grosse météorite qui a percuté la Terre il y a 65 millions d'années. Qu'est-ce que fait ce dinosaure à plumes ici? Et puis parallèlement, on suit le directeur d'un refuge animalier en Afrique du Sud qui découvre dans la savane un éléphant à quatre défenses. Vivant, celui-là, bel et bien vivant. Et il va pas tarder à réaliser que cet éléphant à quatre défenses est en réalité une espèce disparue. L'éléphant qui vivait il y a 20 millions d'années. Donc, dans le passé, puis aujourd'hui, semble se répéter une espèce de phénomène, une espèce de régression, de réapparition d'espèces disparues. Et la grande question, c'est le suspense, c'est est-ce que ça va toucher là? Ça sera le temps. Voilà.
Pour ma part, je termine l'écriture d'un bouquin de science-fiction pour adultes, cette fois-ci, autour de la question qu'est-ce qui se passerait si le champ magnétique terrestre venait à disparaître et donc on est soumis aux radiations cosmiques, etc. Donc voilà, l'humanité serait un petit peu embêtée. Et donc c'est une sorte de roman catastrophe autour de cette question-là. Et puis ensuite, je reviens à l'écriture de jeunesse, avec, non, toujours dans la science-fiction, avec une dystopie, le mot un petit peu à la mode. On sera dans un futur indéterminé, il y aura une catastrophe, peu importe laquelle, puisque ce n'est pas la question, et une partie des êtres humains, on leur aura bridé artificiellement leur intelligence, parce qu'on estime que c'était leurs ancêtres qui étaient responsables de cette catastrophe, etc. Et puis, bon, dans cette société, bon, on aura à nouveau un généraux qui, lui, il y aura un petit bug dans ses implants, il va devenir intelligent, et il va savoir un petit peu pourquoi est-ce qu'on a brisé l'intelligence sur un peu de cette
Merci.
Je viens juste de terminer un album qui s'appelle Le sourire de la montagne. Et le thème, c'est. Vous avez tous vu ces Bouddhas qui ont été explosés en Afghanistan. Donc, c'est comme c'est une image qui m'a beaucoup touché parce que sans être allé là-bas, j'ai beaucoup vu ces Bouddhas au détour de reportages photographiques ou même de livres de voyage. Et donc, c'est un livre qui raconte non pas la destruction, mais la construction d'un Bouddha, d'un roi qui a envie de créer un dieu dans la montagne qui donne confiance à ceux qui marchent vers lui. Voilà. Donc, c'est autour de ce sourire qui est très difficile à dessiner dans la montagne, très difficile à fabriquer.
Grand calme sur la mer de mon côté, du point de vue des parutions, parce que cette année rien de. Mais par contre, grande tempête sur le bureau, parce que pour l'année d'après, 2014, d'avoir fini ce roman dont je parlais, qui est un roman avec aussi des images, qui fait un peu un grand écart entre quelque chose de très très autobiographique, très personnel, où le jeu qui parle, c'est vraiment moi à 14 ans et aujourd'hui d'ailleurs aussi. Et en même temps, le plus féerique aussi de ce que j'ai écrit, puisqu'on est aussi dans le monde d'un conte de fées, de l'univers de tous les contes de fées. Donc c'est un projet dans lequel je suis plongé et qui me passionne. Et puis donc cette année, c'est plutôt côté scène, c'est mon autre pied, là, celui qui est côté scène, puisque j'ai une pièce qui se joue à l'automne, à Paris, au Théâtre de la Pépinière, qui s'appelle Je danse toujours, qui sera joué par Clémence Poésie dans vraiment un beau théâtre. Je pense que ça va être un beau projet à partir de octobre jusqu'à Noël. Et puis une adaptation d'un petit roman que j'ai écrit qui s'appelle Céleste ma planète, qui est adapté pour l'opéra par l'Orchestre National d'Île-de-France. Et alors là, je travaille avec un jeune compositeur, Sébastien Gaxi, et ça va être créé en février, à Sainte-Pléienne, début février 2014. Voilà, et puis il y a toujours le travail sur une adaptation de Toby en film, mais qui devient un peu plus concrète et qui commence à m'exciter, alors qu'avant ça ne faisait que me terroriser.
Donc merci à tous, notre conférence s'achève et n'oubliez pas que vous retrouvez les auteurs en dédicace à la République. Merci.